Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a 2 jours, le 1er février, nous fêtions le 125e anniversaire de l'une des 9 fusillades du Champ des Martyrs, celle du 1er février 1794, où furent massacrées plus de 400 personnes sur les quelques 2 ou 3 000 qui périrent fusillées dans cet enclos. Alors c'est l'occasion de rappeler ces événements glorieux et d'en tirer une nouvelle fois des leçons de foi, de force, de sainteté, de fidélité pour tous nos combats d'aujourd'hui. Car l'histoire des martyrs d'Angers et d'Avrillé offre beaucoup d'analogies avec la situation actuelle et constitue en quelque sorte un modèle pour les combats que nous devons mener aujourd'hui pour conserver la foi catholique et l'esprit chrétien au milieu de l'apostasie générale. En plus, cette histoire s'est déroulée ici même. La terre que nous foulons a été arrosée du sang des martyrs. C'est un peu notre héritage. Alors nous n'avons pas le droit de le laisser tomber dans l'oubli. À 9 reprises, donc, du 12 janvier au 16 avril 1794, des colonnes de victimes prirent le chemin qui mène au champ des martyrs, un champ qui faisait alors partie du domaine de la ferme des Clous, l'une des fermes qui, jusqu'à la Révolution, dépendait du monastère grandmontain de La Haye aux Bonshommes. Lors de la vente des biens nationaux, ce domaine avait été racheté par l'un des révolutionnaires d'Angers, qui avait lui-même proposé sa terre pour les fusillades. « Cela fera du fumier », avait-il dit cyniquement. Les victimes qu'on conduisait ainsi à la fusillade étaient en immense majorité des femmes du peuple, parce que les hommes avaient presque tous rejoint la grande armée catholique, d'où la plupart d'ailleurs ne reviendront pas. De ces victimes, dont on ne connaît pas tous les noms, l'Église en a retenu 84, celles sur lesquelles il y avait assez de renseignements pour instruire un procès en béatification. Et à ces 84 martyrs, il faut en ajouter 15 ou même 16 qui ont été guillotinés à Angers, place du Ralliement, qui portait alors le nom de place de la guillotine, parmi lesquels 13 prêtres, en comptant le bienheureux Noël Pinault, qui a été béatifié avant les autres sous Pie XI. Les actes de ces 100 martyrs constituent l'une des plus belles pages de l'histoire religieuse de l'Anjou, une page digne des récits de martyrs des chrétiens de l'Église primitive. Comme vous le savez, dans la guerre qu'elle fit aux populations catholiques de l'Ouest, la terreur révolutionnaire usa des moyens les plus atroces. 1794, c'est l'année des colonnes infernales et des grands massacres de Vendéens. Les arrestations se multiplient, les prisons regorgent de détenus, et pourtant ces prisons sont très nombreuses. À Angers, on incarcère non seulement à la prison nationale et au château, mais aussi dans les couvents et même dans les églises qui ont toutes été transformées en prisons. Au calvaire, au bon pasteur, aux pénitentes, au carmel, à Saint-Aubin, à la cathédrale, dans les 2 séminaires et dans beaucoup d'autres lieux encore. Comment faire pourtant? Il y a trop de prisonniers. La guillotine ne suffit plus. La guillotine, c'est un supplice spectaculaire, particulièrement chéri des révolutionnaires. Mais c'est trop lent et c'est trop cher. Chaque exécution coûte 59 livres à la nation. Alors il faut trouver d'autres moyens. Pourtant, le manque d'hygiène et de nourriture, ajouté au froid, pensez que dans cet hiver 1793-1794, le thermomètre est descendu à moins 17. Tout cela a provoqué bien des épidémies meurtrières et un bon millier de prisonniers sont morts en moins d'un an. Mais même cela n'arrive pas à vider les prisons. Alors on fait appel à des moyens plus expéditifs. À Nantes, on noie les prisonniers dans la Loire. Et à Angers, on les fusille en masse. Les fusillades commencent en décembre 1793, en bordure de Maine, au port de l'Ancre, puis à Sainte-James et au pont de Cé. Mais les fusillades les plus massives ont lieu au Champ des Martyrs, à Avrillé, à deux pas d'ici. Pour aller plus vite, les juges de la commission militaire se transportent dans les prisons. Mis en présence des suspects, ils procèdent à un semblant d'interrogatoire que le greffier note en quelques mots. « Es-tu allé aux messes des prêtres réfractaires ? Pourquoi n'allais-tu pas aux messes des prêtres sermentés ?» Et le procès-verbal tient en une ou deux lignes, tout au plus, ponctué presque toujours du mot « fanatique » ou « fanatique prononcé », « fanatique au superlatif », ce qui signifie « catholique fidèle et irrécupérable ». Et dans la marge, le greffier ajoute un grand « F » à fusiller, ou plus rarement « G », c'est-à-dire à guillotiner. Les terroristes entourent les exécutions d'un sinistre cérémonial. La commission militaire, qui est la plus féroce des deux tribunaux révolutionnaires, siège dans l'ancien couvent des Dominicains, eh oui, en face de la cathédrale. Et le comité révolutionnaire, lui, s'est installé à l'évêché. Et c'est dans l'un de ces deux lieux que se forme la chaîne des victimes, qu'on attache deux à deux. Celles qui ne peuvent marcher sont jetées pêle-mêle dans une charrette et la colonne s'ébranle, encadrée d'une double rangée de gendarmes. On passe la Maine, vous connaissez l'itinéraire, on traverse la Doutre. À mesure qu'on passe devant chaque prison, la chaîne s'allonge et on emprunte le chemin qui monte vers Avrillé, l'actuelle route de la Méniane, qu'on appelle alors le chemin du silence. Et le contraste est grand entre ces prisonnières, des paysannes surtout, avec quelques châtelaines, de nobles chrétiennes qui marchent calmement vers la mort en murmurant le chapelet ou en chantant des cantiques à la Vierge. Et puis le troupeau vociférant des sans-culottes, flanqué de mégères qui puent l'alcool et le vice et qui injurient les condamnés. Et les juges, empanachés, scindent leur écharpe tricolore, suivent le cortège avec la musique militaire qui alterne le « Ça ira » et la « Marseillaise ». Arrivés au Champ des Martyrs, la chaîne est défaite et les condamnés sont alignés devant les fosses toutes préparées. Les gendarmes tirent une salve, les corps tombent, on achève les moribonds à la baïonnette, on jette un peu de terre et la fosse est à nouveau prête pour la fournée suivante. Voilà comment ça s'est passé. Il faudrait des heures pour raconter en détail les merveilles que recèlent les actes de tous ces martyrs. Contentons-nous de tirer quelques perles de ce trésor, en tâchant de nous en appliquer les leçons, car c'est ça qui compte. Un premier témoignage que nous donnent ces martyrs, c'est le refus du mensonge et des compromis honteux. Même pour sauver leur vie, nos martyrs refusent de biaiser. Les récits qui ont été conservés nous fournissent plusieurs exemples. En voici deux. C'est d'abord celui de Périne Périer, épouse Turpot, arrêtée à Cholet, amenée à Angers à coups de pierre et de sabre, comme disent les chroniques. Elle accouche 3 jours après d'un garçon qui meurt aussitôt après son baptême. Lors de sa comparution devant la commission militaire, elle laisse entendre qu'elle est toujours enceinte et grâce à cela, elle évite la fusillade. Mais elle est bourrelée de remords pour ce qu'elle appelle sa faute. Alors, quand elle est à nouveau interrogée, 2 mois après, elle avoue. « Tu es enceinte, toi ?» lui lance un des juges. « Non, je ne le suis pas et vous pouvez me juger, » répondit-elle. De retour à la prison, ses compagnes lui disent « Mais pourquoi n'avez-vous pas répondu oui ? Vous étiez sauvée. » « Je le sais bien, » dit-elle, « mais j'aime mieux mourir que de faire un mensonge. » Voilà. J'aime mieux mourir que de faire un mensonge. Et elle se prépare à la mort par des prières continuelles. Elle est fusillée le mercredi saint, 16 avril 1794. C'est la dernière des 9 fusillades. L'autre exemple, c'est celui de sœur Marie-Anne, l'une des deux filles de la Charité qui furent fusillées le 1er février 1794 parce qu'elles avaient refusé le serment dit de liberté-égalité. En entrant dans l'enclos du champ des martyrs, sœur Marie-Anne entonne les litanies de la Sainte Vierge et toutes les condamnées, elles étaient 400 ce jour-là, se mettent à répondre « Ora pro nobis » à chaque invocation. La chaîne s'est transformée en procession mariale. À ce spectacle étonnant, c'est sûr, l'un des soldats est bouleversé. « Cela fait mal de voir mourir de pareilles femmes, » dit-il. Et le commandant, qui est ému, lui aussi, veut sauver les deux religieuses. Alors il leur tient ce petit discours. « Citoyennes, il est encore temps d'échapper à la mort dont vous êtes menacées. Ne faites pas le serment, puisqu'il vous répugne et qu'il vous contrarie. Je prends sur moi de dire que vous l'avez prêté, et je vous donne ma parole qu'il ne vous sera rien fait. » La réponse de la sœur est admirable. « Citoyens, non seulement nous ne voulons pas faire le serment dont vous nous parlez, mais même nous ne voulons pas passer pour l'avoir fait. Ne nous croyez pas assez lâches et assez attachés à une misérable vie pour nous croire capables de souiller notre âme. Nous déclarons que nous préférons la mort plutôt que de rien faire qui soit opposé à l'amour que nous avons juré à notre Dieu. » Dans le même ordre d'idées, on peut mentionner aussi l'attitude héroïque de l'abbé Léniaud de l'Angellerie. Il était l'aumônier du Carmel d'Angers. Il a été arrêté alors qu'il allait porter clandestinement l'extrême-onction à un malade. Et au cours de son interrogatoire, le juge lui fait miroiter la situation qu'il pourrait avoir s'il cessait de s'opposer au serment et s'il se ralliait à la République. C'est alléchant. « Tu sais qu'il existe beaucoup de prêtres qui sont maintenant dans la société et qui y sont paisiblement, que la République leur donne protection parce qu'ils sont soumis aux lois et qu'ils ont prêté le serment requis. Et cela ne se cache pas. » Mais devant cette proposition, l'abbé de l'Angellerie reste intraitable, fidèle à son devoir. « Il refuse le serment, dit-il au juge, parce que ce serait approuver ta République française qui a détruit la religion de Jésus-Christ qui est le Dieu de mon cœur. Deus cordis mei. » C'est une citation de psaume. Et l'abbé de l'Angellerie est guillotiné le 14 octobre 1794. Il est la dernière victime angevine de la guillotine. Un autre témoignage que nous donnent ces chrétiens exemplaires, c'est la foi, l'esprit de foi. Et cet esprit, ils l'ont vraiment. C'est le cas des prêtres déjà. On ne peut pas tout citer. Un exemple, l'abbé Ledoyen, à qui ses juges reprochent d'avoir abusé de la simplicité des gens de la campagne pour les entraîner dans l'erreur. Voici ce qu'il répond. « Je leur ai prêché l'évangile de Jésus-Christ. J'ai tâché de les empêcher de tomber dans les erreurs des novateurs. Je les ai toujours engagés à suivre la religion catholique, apostolique et romaine, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Et j'ai toujours veillé à ce qu'ils fussent toujours fermes et fidèles. » Quelle belle parole. De même, Guillaume Repin, curé de Martigné-Briand, qui est alors un vénérable vieillard de 84 ans, il est accusé d'avoir gangréné sa paroisse. Et il déclare au juge qu'il l'interroge le jour de Noël 1793, s'il vous plaît, qu'il n'a pas prêté le serment parce que, dit-il, « j'avais ma foi et religion à conserver ». Vous voyez, tous ces martyrs ne sont pas bavards, ils ne font pas de longs discours. En quelques mots, tout est dit. Mais cela révèle une profondeur de foi admirable. Et cette fidélité à la foi du baptême est aussi le fait des laïcs, pas seulement des prêtres. Deux exemples. Charlotte Lucas, qui est maîtresse d'école et comme telle soumise au serment. Elle n'a pas voulu faire ce serment parce que, dit-elle, elle croit qu'il y a quelque chose de changé dans la religion. Et elle est envoyée à la mort sans même être interrogée parce qu'elle a une tête de mangeuse de bon Dieu, comme écrit le greffier. Antoine Fournier, prêtre d'un prêtre réfractaire, il fait partie des 105 victimes de la première fusillade, le 12 janvier 1794. Il prend la défense des prêtres clandestins et déclare hautement qu'il blâme la conduite de ceux qui s'attaquent à la religion catholique. « Vous souffririez donc la mort pour la défense de votre religion ?» lui demande le juge. « Oui. » Il est condamné comme fanatique outré, père d'un prêtre réfractaire et digne de l'être. Cet attachement à la foi catholique se traduit le plus souvent chez nos martyrs par un indéfectible attachement à la messe des prêtres non-jureurs. La messe des prêtres non-jureurs. C'est le motif qui revient le plus souvent dans les condamnations, avec d'autres, le fait de porter un Sacré-Cœur, d'avoir un chapelet, ou a fortiori de cacher un prêtre. Mais le motif le plus fréquent, c'est celui-là, avoir assisté à la messe des prêtres non-jureurs. Ils sont condamnés parce qu'ils n'ont pas voulu assister aux messes des prêtres assermentés, c'est-à-dire des prêtres constitutionnels, les intrus, comme on dit alors, et parce qu'ils ont assisté aux messes clandestines des prêtres réfractaires. Pour les révolutionnaires athées, cette question de messe est capitale. On peut s'en étonner, mais c'est que pour eux c'est extrêmement significatif. Et on pourrait multiplier les exemples. Ainsi, quand le juge demande à René Grillard, c'est une femme, si elle est allée à la messe des prêtres qui ont prêté le serment, elle répond « Non, jamais ». Pourquoi n'y alliez-vous pas, poursuit le juge, parce que je n'avais pas confiance en eux. Instinctivement, ces chrétiens sentaient qu'il y a quelque chose qui clochait. Ça n'était plus catholique. Et en revanche, elle et sa sœur Marie répondent qu'elles sont allées aux messes, aux sermons, aux processions organisées par les prêtres réfractaires et même à confesse. Alors le tribunal les déclare suspectes de n'avoir jamais été à la messe des prêtres sermentés qu'elles détestaient et elles sont condamnées à être fusillées. Comprenons bien, ce n'est pas pour des raisons d'esthétisme ou de simple attachement liturgique que les martyrs sont fidèles à la messe catholique au point de mourir pour elle. C'est pour des raisons de foi, à cause de ce que la vraie messe représente. Car la messe des prêtres jureurs, matériellement parlant, est strictement la même que celle des réfractaires. Ce n'est pas une messe nouvelle, ça n'existe pas à l'époque. Mais cette messe des prêtres jureurs a une source empoisonnée. Elle est dite par des prêtres schismatiques, ralliés à la Révolution, et ça suffit. On pourrait encore souligner chez nos martyrs toutes les vertus qui révèlent un profond esprit chrétien. Ce ne sont pas des mondains, ce sont des chrétiens de l'Évangile, comme dit le Père Emmanuel. Dans l'épreuve qui les accable, sous les injures dont on les abreuve, ils ne se révoltent pas, ils acceptent leur sort, et ils l'acceptent même joyeusement. Il y a beaucoup de joie dans les récits de toutes ces condamnations, parce qu'ils ont été formés depuis leur enfance à l'esprit de sacrifice, habitués à porter la croix, et que pour eux, la fidélité n'est pas un vain mot. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont des moutons. Ils réagissent, et leur réaction ne se limite pas à un simple refus. Leur fidélité s'exprime de manière positive, par des actes. Ils s'engagent. Ainsi, les prêtres ne se contentent-ils pas de refuser le serment ? À l'exemple de Noël Pinault, ils expliquent à leurs fidèles pourquoi il n'est pas possible de l'accepter sans trahir la foi et la mission que l'Église leur a confiée. Ils instruisent les âmes, ils les confortent, et c'est pourquoi ils ne veulent pas abandonner leur paroisse et continuent leur ministère clandestinement au péril de leur vie. Et quant aux laïcs, c'est pareil. Il ne leur suffit pas de rejeter l'intrus. Ils aident les bons prêtres, ils les cachent, ils assurent leur subsistance. Ils appliquent au fond ce que Don Guéranger dit des vrais fidèles dans la notice de son année liturgique consacrée à saint Cyrille d'Alexandrie au temps du nestorianisme. Vous vous souvenez peut-être ce texte, il est célèbre, mais il est admirable. Il s'applique parfaitement à notre cas et il s'applique aussi à la situation actuelle. « Il peut arriver, écrit Don Guéranger, que des pasteurs restent silencieux pour une cause ou pour une autre, en certaines circonstances où la religion même serait engagée. Les vrais fidèles sont les hommes qui puisent dans leur baptême, en de telles conjonctures, l'inspiration d'une ligne de conduite, non pas les pusillanimes qui, sous le prétexte spécieux de la soumission aux pouvoirs établis, attendent pour courir à l'ennemi ou s'opposer à ses entreprises un programme qui n'est pas nécessaire et qu'on ne doit point leur donner. C'est tout à fait ça. Donnons un dernier exemple, particulièrement visible chez les femmes, puisque, comme on l'a dit, ce sont elles les plus nombreuses. C'est leur grand amour de la pureté catholique. On constate cet amour, par exemple, dans l'histoire de Marie-Louise Verdier de la Sorinière. C'est une jeune fille de 28 ans, qu'on appelait dans sa famille la belle Lisette, parce qu'elle était très belle et d'un caractère enjoué. Lors de son premier interrogatoire, elle était terrorisée et elle a eu un moment de faiblesse. Mais elle s'est reprise. Condamnée, elle alla au supplice avec un visage joyeux, en chantant le cantique de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que vous connaissez bien, « Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours ». Au moment d'être fusillée, un officier s'approcha d'elle avec l'intention de la séduire. « Sois mon épouse et je te sauve la vie ». C'était tentant, c'était facile, il suffisait de dire oui. Mais elle répondit fièrement « Laisse-moi mourir, je préfère le martyr à ton amour ». Et elle tomba sous les balles. Il y avait plus lamentable. Les prisonnières devaient défendre leur chasteté contre les propositions malhonnêtes des bourreaux. Ce fut le cas de Rose Quenion. Elle sauta du troisième étage de sa prison pour échapper à son agresseur. En punition, elle fut mise au cachot. Mais en marge de son interrogatoire, le sinistre Vacheron, l'un des membres de la commission militaire, écrivit « à examiner ». En fait, il voulait abuser de cette fille, mais comme elle s'y refusa, il la fit finalement fusiller, et elle est martyre de la chasteté. Arrêtons là. Mes frères, si d'aventure, aujourd'hui, vous vous demandez parfois s'il ne serait pas avantageux ou habile de faire certaines concessions pratiques ou doctrinales dans vos devoirs d'État, dans la fidélité au combat de la foi, dans la vie de famille, dans l'attitude à avoir à l'égard du monde, eh bien pensez à ces martyrs. Car après tout, on pourrait se dire, devoir faire des kilomètres pour aller à la messe, s'obliger à réciter son chapelet et à s'instruire de la religion tous les jours, subir l'ostracisme ou l'incompréhension de ses collègues de travail, de ses amis ou de sa famille, parce qu'on est catholique traditionnel, ne pas jouir des mêmes facilités et des mêmes plaisirs mondains que tout le monde, être montré du doigt parce qu'on s'habille chrétiennement et qu'on ne se mêle pas aux turpitudes communes, aller à contre-courant des opinions dominantes, devoir lutter sans cesse contre l'esprit du monde, l'erreur, le mal, se saigner pour payer les écoles des enfants, tout cela est bien contraignant, bien fatigant, bien pénible, et on pourrait se décourager. Et vous, mesdames et mesdemoiselles, quand vous serez tentés de vous habiller comme les femmes et les jeunes filles du monde, pour être comme les autres, pour ne pas détonner, vêtus aussi courts, aussi serrés, ou quand vous trouverez que vos prêtres exagèrent en vous rappelant les règles de la modestie chrétienne, eh bien pensez à toutes ces saintes martyres, qui étaient elles aussi des mères de famille ou des célibataires vivant dans le monde, comme vous. Qu'auraient-elles fait ? Qu'aurait-elle dit à votre place? Que penserait-elle de tout ce qu'on voit aujourd'hui? C'est vrai, les modes changent, et elles ont changé en 2 siècles, mais l'esprit chrétien, lui, ne change pas. C'est le même. On est chrétien ou on ne l'est pas. Si nos martyrs avaient voulu avoir une vie facile, mondaine, suivre le courant général, profiter des facilités de la vie, mener une existence sans histoire et sans combat, ils n'auraient jamais été martyrs. On ne parlerait même pas d'eux. Alors, mes frères, il faut retremper nos âmes auprès d'eux. Et c'est pour ça que ces commémorations sont utiles, nécessaires même. En ces jours où nous fêtons leur triomphe, n'hésitons pas à les puiser auprès d'eux, même dans l'enclos où il repose, là, à côté, d'aller puiser la foi, la force, la sainteté, la fidélité qui nous sont nécessaires pour mener les combats d'aujourd'hui. C'est la grâce qu'il nous faut demander. Et pour bien la demander, nous penserons que tous ces martyrs étaient extrêmement dévots à la Sainte Vierge. C'est sans doute elle qui leur a obtenu cette grâce d'être fidèle jusqu'au bout. Ben, demandons-lui la même grâce pour nos combats d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.